RCF.
Tu vas où habillé comme ça?
J'ai un rendez-vous ce soir.
Mais c'est génial!
Que le spectacle commence.
Et bonjour à toutes et à toutes, et merci de nous rejoindre en cette fête de l'Ascension. Alors à l'affiche aujourd'hui, Internet, nouvelle terre de mission numérique. C'est le parti qu'a pris frère Benjamin, jeune prêtre salésien, mais aussi chanteur et compositeur. Un parcours pas banal qu'il a raconté dans un livre paru aux éditions Artege. On le retrouvera dans une petite demi-heure. Mais pour commencer, direction les chemins de Compostelle avec Maud Ankaoua, une femme aux multiples casquettes, coach, conférencière, conseillère financière dans le secteur des nouvelles technologies et de la santé, et également écrivaine. Son troisième roman, Plus jamais sans moi, a été publié chez Erol. Une aventure libératrice qu'on va tout de suite partager avec elle.
Tout doux, portrait croisé.
Je vous laisse tirer au sort l'endroit où vous effectuerez votre période d'essai. Benoît plaça devant Constance une corbeille remplie de papiers pliés en quatre. Ce n'est pas ici que je vais la faire. Tout dépend de votre tirage. Allez-y, insista Hélène gentiment. Constance déplia, tremblante, le bout de papier et murmura du bout des lèvres « Chemin de Compostelle ». « Oh, félicitations !» s'exclama Hélène. « C'est une des plus belles expériences. »
Et voilà comment Constance, jeune avocate pas très sûre d'elle, va retrouver joie et liberté en s'élançant sur les chemins de Compostelle, un parcours inclus dans une période d'essai avant son embauche dans un grand cabinet juridique parisien. Alors on va pas en dire plus pour l'instant, Maud Ankaoua, mais moi j'aimerais savoir comment est née l'idée de ce nouveau roman. Est-ce qu'il part de votre propre expérience vécue sur ces fameux chemins de Compostelle?
Tout à fait. Alors en fait, comme les deux précédents, j'avais envie de partager des choses qui m'étaient chères, et le décor, le voyage fait partie de ce qui m'est cher, puisque c'est mon adrénaline que de voyager, c'est vraiment mon ADN. Et effectivement, je fais régulièrement le chemin de Compostelle. Donc c'était une évidence pour moi de rendre hommage à ce chemin avec différentes expériences que j'avais pu vivre sur ce chemin.
Alors on va revenir sur ce troisième roman, mais auparavant un petit retour sur votre propre parcours. Si on se réfère à votre site internet, vous avez poussé votre premier cri en automne 71 et grandi dans une maison rassemblant quatre générations, une par étage. Une petite fille curieuse et impatiente qui rêvait de sauver le monde et qui se disait « quand je serai grande, mais grande avec un G majuscule ». Ça voulait dire quoi pour vous ?
En fait, j'avais surtout envie de beaucoup voyager. Alors, grande, pour moi, ça voulait dire je vais pouvoir être libre, hein, libre de faire ce que je veux, quand je veux, de pouvoir emmener les gens, de pouvoir les suivre et de grandir ensemble. Mmh. Oui, c'était vraiment ce que j'avais. Alors, du haut du Vélux, en fait, on avait des Vélux, hein, parce qu'on était sur le toit.
Déjà, vous étiez grande en hauteur. Hein.
C'est ça. Je me hissais sur le Vélux et puis je regardais au loin où j'allais aller. Alors, bon, je ne voyais pas plus loin que les toits d'à côté, hein, bien sûr, mais pour moi, j'avais l'impression de voyager dans le ciel. Donc c'était toujours mon souhait de faire un monde un tout petit peu meilleur.
Un peu meilleur. Alors vos études, vous allez faire en grande partie en Angleterre, il y a Nottingham, Oxford, avant de sortir majeur de votre promotion à Sciences Po, et c'est le monde de l'entreprise qui va vous happer, boulimique de travail. À 26 ans, vous dirigez une entreprise de publicité, les nouvelles technologies à l'aube des années 2000, parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Ça vous fascine, hein, au point de friser l'épuisement et le burn-out. Qu'est-ce qui a fait que le regard sur cette vie complètement folle va changer en 2010?
Alors déjà, parce qu'on finit une aventure, on a été jusqu'au bout d'une aventure, on vend notre société, ce qui est soit une entrée en bourse, soit une vente à un grand partenaire. Donc nous, on vend Dassault Systèmes. Et en fait, depuis 6-8 mois, je veux arrêter. Sauf qu'on ne peut pas arrêter dans ce tourbillon quand on arrive à une fin de cycle comme ça. Donc je veux aller jusqu'au bout, évidemment. Mais là, c'est là que je commence à tirer un peu trop. Et quand on vend, ben là, je décide vraiment, je demande à arrêter et à pas continuer le relais. Donc, je fais un relais propre, bien sûr, mais pas à continuer l'aventure avec Dassault Systèmes. Ouais. Mais j'ai vraiment envie d'arrêter. J'ai 39 ans, je veux vraiment arrêter. C'est un gros succès, effectivement. Et là, je sens que je suis entre deux. C'est-à-dire que vraiment, je sens mon corps qui est allé un peu trop loin. Vous savez, c'est un peu quand vous prenez le verre de trop dans une soirée. Mmh. Vous le sentez pas tout de suite, mais le verre de trop, même si vous arrêtez de boire, c'est trop tard, quoi. Et bien là, c'est pareil. Je sens que c'est le moment de trop, c'est le mois de trop, c'est le fait de tirer un peu trop, et je me dis, je vais m'écrouler. Et donc, je décide de partir dans l'Himalaya. avec un guide et des sherpas. Et je me dis, voilà, il faut qu'on m'apprenne maintenant à vivre autrement, à vivre au présent. Puisqu'en fait, la joie, je ne peux la connecter qu'au présent. Tout le monde ne peut connecter la joie qu'au présent. Alors que dans cette aventure, on a toujours 10 coups d'avance. Mmh. C'est le propre de la stratégie et c'est le propre de ces sociétés qui sont fascinantes, mais ça va très très vite.
Donc besoin de faire cette pause, cette respiration, cette reconnexion avec vous-même finalement.
Oui, et puis même au-delà de ça, d'apprendre à vivre, à revivre au présent. Mmh. C'est-à-dire que je ne sais plus, mon mental a toujours ses coups d'avance et j'ai juste envie de réapprendre une vie autre. Et j'ai le temps pour le faire, puisque je m'arrête de travailler. J'ai besoin de ce temps et je pars 5 semaines dans l'Himalaya avec guide et Sherpa et j'apprends le silence.
Le silence. Est-ce que c'est ce voyage qui va vous inspirer pour écrire Kilomètre Zéro, hein, qui se déroule justement au Népal avec cette jeune femme Maëlle, qui est directrice financière de start-up, hein. Étrange coïncidence.
Étrange sans coïncidence. Alors c'est vrai que 90% de mes 3 livres, hein, même le dernier, Plus jamais sans moi, c'est vraiment une micro-fiction parce que la réalité c'est que je vis vraiment ces histoires d'une façon ou d'une autre où je croise des histoires de gens que j'ai accompagnés. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de vécu. Et effectivement, Kilomètre Zéro, le Népal inspire Kilomètre Zéro que j'écris 6 ans après pour mes amis. Et qui ensuite est parti dans les mains
de mon
éditeur.
Un premier roman qui va cartonner en librairie à sa sortie en 2016 et très bien vous placer dans un classement révélé le 15 décembre dernier dans une émission spéciale sur France 2.
Mon livre favori, c'est L'écume des joues.
La comédie humaine.
Percy Jackson.
Critique de la raison pure.
Le soldat de Michel Field.
Classique, polar, théâtre, manga. Quel sera le livre favori des Français?
Il s'agit de...
Eh bien, il s'agit de « Il est grand temps de rallumer les étoiles » de Virginie Grimaldi, qui est arrivée en tête donc de ce classement des 25 livres préférés des Français. Mais vous, Maud Ankawa, vous arrivez à la 11e place sur 25 titres devant des monuments littéraires comme « L'étranger de Camus » ou « Bonheur des dames » d'Émile Zola ou encore « L'écume des jours » de Boris Vian ou « Cyrano de Bergerac » d'Edmond Rostand. Je ne sais pas comment vous avez réagi à ce classement.
Alors en fait c'est vraiment fou parce que déjà quand j'apprends que je fais partie des 50 livres préférés des Français parmi des millions de titres, hein, puisque c'est tous les livres, BD compris, manga compris, etc. Déjà de faire partie des 50 livres préférés des Français, ça paraissait complètement fou, hein, moi ça me paraissait fou, et Virginie mérite au combien cette première place, j'adore ce qu'elle écrit et elle incarne vraiment plus ce qu'elle écrit. Donc, mais face à des monuments, j'allais dire il n'y a plus de réalité, c'est juste fou et je suis très très touchée de la façon dont les lecteurs...
Mais écrivaine, est-ce que vous sentiez vraiment la fibre d'une auteure, d'une écrivaine ?
Alors non seulement pas du tout, mais alors pas du tout. Et le pire, c'est que même 3 livres après, je le suis toujours pas.
Oui.
Et je le sens toujours pas parce que c'est très difficile pour moi d'écrire. C'est extrêmement difficile et il y a des écrivains qui ont besoin d'écrire. Moi, pas du tout. Je le fais vraiment par l'envie profonde et la motivation profonde de partager quelque chose qui m'est cher. Mmh. Parce que je me dis que si un mot, une phrase peut faire du bien à une personne, alors j'ai raison d'écrire. Mais en aucun cas. C'est un exercice facile et c'est quelque chose d'inné. Pas du tout. Je suis plutôt une scientifique, une littéraire. Et au point même que j'ai commencé à écrire Kilomètre Zéro sur Excel, pour vous dire. Mm-hmm. Ça a été très complexe. Des copier-coller sur Word après. Mais voilà, j'ai pas du tout cette âme-là. Mm-hmm. Mais j'aime écrire pour laisser quelque chose qui pourrait peut-être servir à quelqu'un.
Vous aimez écrire et le public ne s'y trompe pas puisqu'il a fait un triomphe à votre premier livre, Kilomètre Zéro, suivi de Respire. Comment est-ce que vous expliquez justement ce succès ? Enfin, qu'est-ce qui attire autant chez vous, les lecteurs ?
Je pense que j'écris comme je suis, c'est-à-dire que je ne connais aucune règle de roman, je lis peu, j'écris comme je suis et je partage des choses réelles, c'est-à-dire que vraiment je suis complètement à nu dans ces romans. D'ailleurs le premier je l'ai écrit pour mes amis, je me suis mis complètement à nu, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit lu par autant de gens, d'ailleurs peut-être que j'aurais eu du mal à me dévêtir à ce point si j'avais su, mais ce que m'ont apporté ces lecteurs, c'est justement de m'aimer tel que j'étais, à nu, avec mes failles, mes faiblesses. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire Respire, le second, pour les lecteurs qui avaient tant porté Kilomètre Zéro. Et je me suis dit, bah, si, même tel que je suis, alors je continue et je propose d'autres choses telles que je suis. Mais je crois que c'est cette authenticité qui a fait le succès de ces livres.
Alors, ce 9 janvier, je crois, va sortir votre 3e roman, Plus jamais sans moi. On va en parler dans quelques minutes. Ça sera juste après une première page musicale qui vous inspire. Et en premier lieu, c'est Patrick Bruel, encore une fois, l'un des titres de son dernier album. Pourquoi ce choix ? Vous êtes fan de Patrick ?
Alors, je fais exactement partie des hystéros qui hurlent son prénom, mais pour de vrai. Ouais. Je le suis depuis des années, j'ai 50 ans, donc le pauvre. Ouais. mais surtout, au-delà de ça, je ne connais pas le personnage, mais au-delà de ça, je dois dire que son travail, je le trouve très dynamique, je le trouve très ouvert, je le trouve très professionnel, que ce soit au cinéma. Et donc, ça m'a toujours donné, quand il y a des moments un peu plus down, de la pêche. Donc, la musique, j'écoute beaucoup, j'aime la musique, et Patrick fait partie des gens que j'aime beaucoup.
De vos références. Alors on va écouter ce titre et puis on se retrouve tout de suite après pour se plonger dans votre nouveau roman.
Merci.
Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir mais on survit. Dis-toi que tu vas faire une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier, et pourtant je t'aime aujourd'hui. Comme si t'étais la première. C'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie. Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort. Marqué par nos histoires anciennes, on prend celle-ci comme un cadeau. Dehors on sait qu'on n'est plus les mêmes, dedans on reste des ados. Il fait si beau le long de la Seine, des couples poussent des landaus. Rien ne presse, je caresse ton dos. On verra bien où le vent nous mène. Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort.
Vous écoutez la rediffusion de l'émission
Tout doux avec Vincent Belletti.
Encore une fois, le choix bruélien assumé de Maud Ankawa, auteur à succès de Kilomètre Zéro, qui publie son troisième roman, Plus jamais sans moi. Alors l'histoire, eh bien, c'est donc celle de Constance. Rappelez-nous qui elle est, Maud, et puis quel est le point de départ du roman?
Alors Constance, c'est une avocate qui a fait ses preuves dans un bon cabinet d'avocat, et là elle postule dans celui de ses rêves et elle est prise. Et au moment de son embauche, elle signe son contrat et là, la dirigeante lui dit « bon bah très bien, maintenant vous devez tirer votre l'endroit où vous allez faire votre période d'essai ». Alors elle se dit, bah, l'endroit c'est là, c'est à Paris, et finalement elle dit non, c'est pas tout à fait comme ça, et elle tire au sort et elle tombe sur le chemin de Compostelle. Et elle se doit pendant toute sa période d'essai, c'est-à-dire pendant 3 mois, de faire le chemin de Compostelle dans son entièreté, du Puy à Compostelle. Et là c'est la catastrophe parce qu'il n'est pas question de quitter Paris, en plus elle est amoureuse, son amoureux...
Alors justement, Constance, amoureuse, elle porte une vraie souffrance, hein, celle d'être tombée amoureuse d'un homme marié, et c'est pas facile.
À un moment donné, j'ai vu Lucas, une des 36 000 alternatives de la vie. Je suis tombée amoureuse et je suis restée scotchée. Nous ne faisons plus qu'un. Et quand il s'éloigne, c'est comme si on m'arrachait un bras, une jambe, mon cœur, parce que j'ai l'impression qu'il est le seul à pouvoir me rendre heureuse.
Voilà, complètement accro à Lucas, donc cet homme marié qui lui promet sans cesse de quitter sa femme et qui finalement ne le fait pas. Une véritable dépendance affective, c'est l'un des sujets abordés dans votre livre, Maud. Comment expliquer que l'autre soit devenu une véritable drogue, hein? Quand on parle de dépendance, c'est vraiment le cas pour Constance. Comment expliquer cette dépendance justement?
Je crois qu'il y a déjà tous les espoirs qu'on met dans une relation. Quand on se lance dans une relation, il y a tous les espoirs et des espoirs que même l'autre n'a pas promis. Bon là, en l'occurrence, Lucas lui promet de quitter sa femme, mais là, elle voit en lui la personne qui va la rendre heureuse et finalement, elle se fait tout un film autour de ce qui pourrait se passer parce qu'elle ne se base que sur les quelques moments qu'il lui accorde. Et c'est propre de beaucoup de relations qui ne sont non pas des relations d'amour, mais des relations en manque d'amour, c'est-à-dire en manque d'une partie de soi. Mmh. On va vers l'autre en carence et on attend de l'autre qu'il...
qu'il fasse votre bonheur, quoi.
Exactement. Ouais. Et donc cette dépendance affective, c'est tout le film qu'on se raconte. Et il se passe aussi beaucoup de choses. Hein. Dès qu'on se raconte quelque chose, tout le corps réagit, les hormones réagissent, l'adrénaline monte. Et donc en fait, c'est ces hauts et ces bas dont on devient finalement un peu drogué.
Ouais. Notre capacité à aimer dépend de notre capacité à être seul. Hein. Ça, c'est une phrase que vous citez dans votre livre. Dans quelle mesure justement cette capacité à aimer dépend de cette capacité à être seul ?
En fait, plus on se réconcilie avec soi, plus on règle ses carences, ce besoin d'être comblé par l'autre, plus on est entier en fait, hein, plus on retrouve cette entièreté et plus on peut offrir cette entièreté à l'autre. Mmh. Donc on a beaucoup moins de demandes quand on arrive entier que quand on arrive qu'à moitié.
Avec des manques.
Et avec des manques qui vont faire qu'on attend de l'autre qui comble ses manques. Alors c'est ce qui fait ces conflits aussi et ces incompréhensions, ces blessures qui font qu'on attend de l'autre, qui devine, qui l'anticipe, parce que soi-même, on ne sait pas se donner cet amour. Mmh. Alors que quand on arrive entier vers l'autre et que l'autre est entier, ben 1 plus 1 égale 2 et on peut se donner le meilleur.
Alors Constance va-t-elle réussir à sortir de cette dépendance qui la ronge aussi, hein, parce que c'est aussi le propre de cette dépendance. Elle en est consciente, mais elle y plonge quand même. On va laisser le lecteur le découvrir. Elle n'est pas la seule à se lancer sur les chemins de Compostelle. Elle va aussi faire la connaissance de Louis. C'est une quinquagénaire qui, elle, a un autre problème dans ses relations amoureuses.
« Et toi, pourquoi fais-tu le chemin ?» demanda-t-elle à Louise. « J'ai fait le choix douloureux il y a 3 ans de me séparer de mon mari après 22 ans de vie commune. Pourquoi ? Tu avais rencontré quelqu'un d'autre ? Non, même pas. Alors c'est lui qui avait quelqu'un ? Non plus. »
Non plus. Qu'est-ce qui fait que Louise, que Constance va donc rencontrer sur ce chemin de Compostelle, a fini par quitter son mari après plus de 20 ans de vie commune et sans qu'il y ait un amant derrière ?
C'est toute la difficulté. Souvent, on quitte quelqu'un pour quelqu'un d'autre, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, qui étaient c'est plus simple de ne pas se retrouver seule et de switcher de l'un à l'autre. Louise fait un choix très différent. C'est-à-dire qu'elle voit bien qu'elle est plus heureuse dans sa vie. Non pas qu'elle ait un mari ni
maltraitant, violent.
Exactement. Ouais. Mais simplement, elle est plus heureuse et elle s'éteint dans ce couple. Et parce qu'elle s'éteint, elle fait le choix de le quitter avant justement de s'ouvrir à autre chose. Ce qui est pas forcément le propre de beaucoup de gens, parce que encore une fois, elle préfère prendre le temps de régler ses propres blessures pour pas reproduire finalement ce qu'elle était en train de vivre et d'aller en carence justement vers l'autre. Et donc le chemin, Constance va rencontrer Louise qui, elle, a fait ce chemin de cette solitude au moment où elle le rencontre.
Troisième personnage, c'est Manon. C'est une jeune femme qui a abandonné ses études de nutritionniste, qui multiplie les liaisons éphémères à partir d'un site de rencontre qui s'appelle Casse-toi et vis. Hein. Ça, c'est quand même assez amusant, je pense que vous l'avez inventé. Quel est son problème justement à Manon dans ses rapports affectifs éphémères ?
Alors Manon, c'est complètement différent. C'est que elle veut surtout pas s'attacher parce que elle sait à quel point si elle s'attache, elle risque de souffrir. Donc elle vit, elle profite, elle prend du plaisir et puis elle change de partenaire régulièrement pour rester cachée, en tout cas pour cacher son cœur, pour protéger son cœur plutôt. Et effectivement, et à travers les rencontres, mais aussi à travers la nourriture où finalement elle se réfugie et elle s'en fait une propre carapace.
Ouais, elle fait une carapace dans laquelle elle finit par étouffer, hein, littéralement s'asphyxier. Alors Constance, Louise et Manon, trois femmes avec des problèmes affectifs différents qui vont donc s'épauler, qui vont échanger, qui vont discuter sur ce chemin de Compostelle. Alors dans ce livre, il y a beaucoup d'auteurs que vous citez en tête de chapitre. Ça va de Mère Teresa à Jean-Paul Sartre en passant par Paulo Coelho, Saint-Exupéry, Confucius, Sacha Guitry, Saint-Augustin ou Don Miguel Ruiz à l'origine de ces fameux accords Toltec. Qu'est-ce que vous recherchez, Maud, dans tous ces auteurs qui ne sont pas tous d'inspiration chrétienne d'ailleurs ?
Non, alors c'est vrai que le sujet pour moi c'est souvent de lire des citations, peu importe l'auteur d'ailleurs, et de me laisser inspirer par des citations parce que même dans la journée des fois, hop, ça donne un petit coup de pouce, ça remet les pendules à l'heure. Donc je prends comme ça, je screenshot même sur les réseaux parfois des citations et puis je les mets de côté et puis au moment où j'écris, une fois que j'ai fini le roman, j'essaie de trouver des citations qui pourraient coller avec le chapitre en fait. Donc j'aime démarrer un chapitre avec une citation, quel que soit l'auteur.
faites votre miel comme ça de toutes les philosophies qui peuvent exister.
Oui, j'ai cette chance d'avoir été élevée dans des religions différentes, dans des j'ai eu le choix en fait de beaucoup de choses, de ma culture, donc et le voyage m'a appris à voir les choses aussi un peu différemment, à changer ma caméra d'angle et du coup ben voilà, mon père était de profession juive, ma mère était catholique et du coup pas de religion à la maison, mais on élève les enfants dans de vraies valeurs et ça a été pour moi aussi l'opportunité de me créer aussi à travers tous ces voyages, à travers toute cette culture, ces philosophies, ces religions.
Il y a une citation que j'aime bien, alors je ne sais plus de quelle est, je crois que c'est un proverbe chinois qui dit qu'un imbécile qui avance va plus vite va plus loin que deux intellectuels assis.
Assis, oui, c'est ça. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Et parfois, on se prend un peu la tête sur un tas de choses et il y en a certains qui se posent moins de questions. Oui. Et en tout cas, qui vont à l'instinct et qui vont vers eux. C'est chouette.
Toudou avec Vincent Belletti.
Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité du jour, Maud Ankawa, coach, conférencière, conseillère financière, aussi écrivain, auteur à succès, vous l'avez peut-être lu, de Kilomètre Zéro, 11e livre préféré des Français. Elle publie son 3e roman, Plus jamais sans moi, sur le parcours de 3 femmes réunies sur les chemins de Compostelle, un chemin qui va leur permettre de prendre un peu de recul sur leur vie et leurs relations affectives. Alors dans votre dernier roman, vous donnez à travers vos personnages des pistes hein, pour mieux comprendre notre rapport amoureux, notamment la règle des 5. Des 5 A. Quels sont ces 5 A justement? Est-ce que vous pourriez nous le rappeler, Maud Ankawa?
Oui, alors en discutant avec un ami Benoît qui me parlait de ça, j'ai été effectivement, je trouvais que c'était très juste la règle des 5 A. C'est dans une relation, c'est le premier A, c'est l'altérité. L'altérité, c'est de reconnaître l'autre dans sa différence. On est tous différents, on a tous nos différences, et bien souvent, on veut que l'autre soit à notre image, qu'il soit. On dit toujours, ah ben, on se ressemble tellement, c'est pour ça qu'on s'aime. Ben ouais, mais en même temps, quand on.
C'est bien qu'il y ait des différences aussi.
Exactement. Avec la personne avec qui on est aussi, le deuxième A, c'est l'amitié. Parce que si la personne qu'on aime, eh bien on en est vraiment amis, c'est-à-dire qu'on peut partager des choses intimes, au-delà de la sexualité, de nos rapports quotidiens, etc. Mmh. Mais vraiment l'amitié dans toutes les valeurs de l'amitié, d'ailleurs, ben, je crois que la personne avec qui on est doit être avant tout un ou une amie. Le troisième A, c'est l'admiration. Je crois que dans une relation, quand on admire l'autre, quel que soit le sujet, ça peut être de l'admirer pour ses valeurs, de l'admirer pour le fait qu'il soit empathique, peu importe. En fait, c'est pas forcément admirer parce qu'il a un travail haut de gamme, etc. Les gens peuvent confondre ça, l'admiration, c'est admirer l'autre tel qu'il est, encore une fois, et il vous touche pour des choses précises.
Il y a aussi
donc l'admiration, l'amitié, l'amant de
comme amant, l'amour charnel aussi.
Ouais. Exactement, là, c'est voilà le partenaire. Si ça se passe mal aussi de ce côté-là, c'est pas toujours simple. Donc c'est aussi un amant. Le partenaire est aussi l'amant. Hein, c'est le propre de la relation
amoureuse, oui.
Et le A, le dernier A, qui est sans doute le plus fort, et c'est pas forcément simple de l'atteindre comme ça. C'est l'agapé dans le Je te vois d'ailleurs du film Avatar. Ouais. L'agapé, c'est quoi? C'est aller aimer l'autre au plus profond de lui-même. C'est l'aimer inconditionnellement. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, je suis tellement à ce moment-là entière que je peux l'aimer tel qu'il est, dans son entièreté aussi. Donc ça nécessite vraiment un travail. C'est une quête de vie. Hein. Je passe ma vie à tendre, à vivre ça et à l'atteindre. Mais c'est ça, c'est de se remplir soi-même, d'être tellement rempli qu'à un moment l'autre l'est aussi et on peut vivre cet agapé. C'est-à-dire cet amour, c'est aimer l'autre inconditionnellement et ça nécessite effectivement de s'aimer profondément soi-même.
Voilà la règle des 5 A à découvrir donc dans ce livre. Il y a beaucoup d'autres pistes, hein, d'autres chemins justement dont vous pourrez prendre connaissance. Au fond, quel est le message essentiel de ce livre qui donne d'ailleurs ce titre à votre livre? On va garder le suspense encore quelques instants. Maud, alors ce chemin, Maud, vous le retraduisez concrètement dans ce livre, un chemin pas toujours facile, avec la fatigue, le poids des sacs à dos, les ronflements dans les dortoirs, mais aussi la beauté époustouflante des paysages traversés, les rencontres fraternelles entre pèlerins, les repas partagés, bref, toute une ambiance.
Il n'est jamais trop tard pour viser la lune. On a toute la nuit, toute la vie pour se réveiller.
Tant qu'on est ensemble, non, rien ne pourra nous effrayer. Les mauvaises pensées on élimine, on va rester positif. On va repousser les limites, les autres on s'en fiche tant que l'on kiffe. Ce qui est sûr c'est que sur le chemin, on va se prendre des coups.
Voilà, extrait d'une chanson qu'on peut retrouver sur votre site, Maud, où l'on voit ces moments de joie et de partage avec ce cœur sur cette chanson de Amel Bent, Ma philosophie. C'est vraiment ce que vous retirez de ce chemin, plus que la fatigue et les ampoules aux pieds.
Ah oui, vraiment, je crois que la fatigue et les ampoules aux pieds, c'est vraiment très très secondaire. Ouais. On a le cœur en joie vraiment tout le temps. Je dis pas qu'il n'y a pas de moments difficiles, hein. Le chemin, c'est aussi la météo, c'est des moments sous la pluie, c'est des galères, c'est des moments où on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas où on va manger, mais c'est vraiment dans le cœur énormément de partage, énormément de solidarité, beaucoup d'empathie, de foi, d'humanité, vraiment. Mmh.
Ce livre aussi, Plus jamais sans toi, c'est aussi une histoire d'amitié autant que d'amour, finalement, entre ces trois femmes.
Oui. Complètement. Alors qu'elles se connaissent pas, elles vont se découvrir pour de vrai à cœur ouvert. Trois générations ou demi-générations, hein, puisque Louise a 50 ans, Constance en a 40 et Manon autour de 30. Donc, des demi-générations d'écart et finalement, chacun va s'apporter beaucoup de par son expérience de vie.
Vous avez fait des belles rencontres justement, vous, sur ces chemins de Compostelle qui vous ont marqué?
Ah oui, vraiment des gens d'ailleurs qui sont restés des amis, parce qu'on a cheminé plusieurs semaines ensemble. Et puis c'est pour ça que j'ai à cœur de mettre le pied à l'étrier et d'emmener des lecteurs. J'emmène chaque année, hein, depuis l'année dernière. Donc j'ai fait plusieurs semaines avec des lecteurs et on partage des moments extraordinaires autour des enseignements des livres. Parce que voilà, il y a cette confiance et cette bulle assez intimiste qui fait qu'on peut être complètement soi-même.
C'est quand même incroyable. Le chemin qui change la vie, hein, ça passe par les pieds. Hein, c'est quand même incroyable, ça. C'est ce qu'on dit souvent sur Compostelle.
Oui. C'est ça. Mais complètement. Et puis le corps aussi beaucoup, parce que on va demander un effort physique. Hein. Compostelle, ça reste une marche et c'est pas une marche toute plate. Il y a quand même pas mal de dénivelé. Il y a vraiment des difficultés physiques. Donc, mais on n'a pas l'habitude de marcher 8 heures par jour puisque c'est l'activité principale, la marche. Ça demande un effort physique et effectivement, ça passe par les pieds et le corps.
Et le corps.
Ce qui est d'ailleurs fabuleux, c'est que quand le corps se met en action, bah, la carapace se fissure. Ouais. Et là, ça laisse émerger beaucoup de choses.
Doudou avec Vincent Belletti.
Les cloches de la cathédrale retentirent aux derniers mots du prêtre. Avant d'entreprendre ce grand voyage, les pèlerins étaient venus nombreux recevoir sa bénédiction lors de la messe matinale. La trappe va s'ouvrir spécialement pour vous, mes chers amis. Elle est en quelque sorte associée à l'utérus du monument depuis des décennies, une symbolique qui n'est pas neutre lorsque l'on commence le chemin de Compostelle. Prenez le temps de descendre les 102 marches qui mènent au village et de les apprécier comme une renaissance, une nouvelle vie qui s'offre à vous.
Voilà, le départ pour Compostelle à partir du puits en Velay sous les cloches de la cathédrale. Celui où vont s'élancer donc Constance, Louise et Manon, les trois personnages féminins de votre nouveau roman, Plus jamais sans moi. C'est justement l'occasion d'expliquer ce titre. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous, Maud?
Plus jamais sans moi, c'est vraiment ce retour à l'amour de soi. On apprend beaucoup de choses à l'école, dans notre éducation. On apprend à aimer, on apprend. Mais finalement, l'éducation, c'est aussi changer un enfant de ce qu'il est dans sa nature profonde. Il ne faut pas que tu sois trop ceci, pas trop agité, pas trop joyeux, pas trop timide, pas trop ceci. Bon, finalement, on ne sait plus en tant qu'enfant ce qu'on est vraiment. Et puis, on construit un personnage. Plus jamais son moi, c'est le retour à soi, le retour à l'amour de soi. Parce que ça, bien souvent, on ne nous l'apprend pas. Et je crois que c'est la base.
La base. Eh bien, merci Maud Ankawa de nous avoir emmenés sur ces chemins de Compostelle. Plus jamais sans moi, c'est paru, je le rappelle, aux éditions Erol. Dans un instant, suite de ces portraits croisés, rendez-vous avec un jeune prêtre assez particulier. À tout de suite.
Tout doux, portrait croisé.
Et suite de ces portraits croisés en ce jour de l'Ascension, le 25 mai prochain, il aura tout juste 40 ans, lui, ses frères Benjamin, prêtre salésien, directeur du collège Don Bosco à Gielles en Normandie, mais aussi chanteur, musicien, très présent sur les réseaux sociaux. Tout un parcours qu'il a raconté dans Tu as du prix aux yeux de Dieu, c'est paru chez Artege et on va tout de suite le redécouvrir.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Bonjour, bonjour. Alors, c'est pas un mot du jour, c'est juste une petite dédicace. Vous dire que, voyez, je suis dans un endroit bien particulier. Je sais pas si vous devinez. Je suis donc à Notre-Dame-du-Lot. Et à Notre-Dame-du-Lot, c'est un endroit où la Sainte Vierge est apparue pendant près de 60 ans. 60 ans! Autrement dit, c'est comme une maison secondaire pour la Sainte Vierge, quoi. Pendant 60 ans, c'était la maison de vacances dans les Alpes. Mais vraiment, de tout cœur, je vous offre chacun à la Sainte Vierge, ici, à Notre-Dame-du-Lot. Et prochainement, je serai à un autre endroit, mais surprise, surprise.
Ah, surprise, surprise. C'était quoi ce prochain lieu à découvrir, frère Benjamin?
Ah, vous l'avez pas deviné?
Non.
C'est un endroit où j'essaie de me laisser inviter par la Sainte Vierge elle-même, si possible tous les ans, et c'est Medjugorje, tout simplement.
Ah, Medjugorje, bien sûr, on va y venir. En tout cas, c'est un petit aperçu des vidéos que vous postez régulièrement sur TikTok. Mais pour commencer, on va revenir un petit peu en arrière. Frère Benjamin, vous êtes né dans le Var, à Draguignan, et on peut dire que si vous avez vu le jour, eh bien, c'est grâce à votre mamie. C'est ce que vous racontez au début de votre livre. C'était quoi ce coup de pouce décisif de la grand-mère?
Donc oui, parce que ma mère, elle, après avoir divorcé, après 2 ans de dépression, elle tombe sur mon père, une relation se tisse, puis j'arrive, manque de peau, la tuile.
C'était pas prévu.
Et ouais, voilà. Et donc mon père a cette fameuse phrase un peu tranchante, hein, mais je suis pas le seul à avoir sans doute entendu cette phrase, mais l'avoir c'est pas fait pour les chiens. Et donc ma mère est un peu désemparée, que faire, lui garder son nouveau compagnon qui l'a soit lui soit la dépression. et donc elle va voir la grand-mère un peu en désespoir de cause, là elle était à Nice donc, et puis cette grand-mère étonnamment a une parole forte, et là elle dit il vaut mieux que tu le gardes plutôt que tu le regrettes toute ta vie. Donc ça a été un peu la phrase qui a validé un acquiescement intérieur à la vie de ma mère, et ça a été un moment.
Alors votre père, vous allez le rencontrer un peu plus tard, on va en reparler. En attendant, vous allez grandir avec ce père absent, mais avec le rêve plus tard d'être enseignant, architecte, biologiste ou encore pilote de rallye, voire même magicien. Mais à 9 ans, votre vie va basculer suite à un voyage. Un petit indice sonore. Voilà, rassemblement sur fond d'Ave Maria et pour cause, c'est à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, devenu lieu de pèlerinage suite à l'apparition de la Vierge Marie à Sicroate à partir de 1981. Dans quelles circonstances, frère Benjamin, vous êtes rendu sur place?
Eh bien, ma mère tombe sur un livre qui parle de cet endroit-là, à Cotignac, qui avait une librairie religieuse. Elle aime bien le bleu, elle aime bien les livres puisqu'elle est prof de français documentaliste. Elle est naturellement attirée vers ce livre, Paroles du ciel, qui raconte un peu notamment les expérimentations qui ont été faites par des scientifiques sur ces 6 enfants que vous venez d'évoquer là,
de
Bosnie,
oui.
Plus exactement. C'est la Bosnie, pour être exact. Et elle se dit il faut qu'on aille là-bas, voilà.
Et donc à Noël, elle vous prend dans son AX,
voilà,
montez dans l'AX à 9 ans, et vous partez donc pour la Bosnie, qui était encore en pleine guerre, hein, il faut le dire,
et
aussi
ben
à
oui.
l'époque, hein, c'était évident. Et là, vous arrivez donc à Medjugorje. Est-ce qu'on peut dire que ça a été vraiment une première révélation pour vous, et dans quelle mesure?
Là-bas, je sais pas, on arrive là-bas, c'est bizarre, hein.
Ouais.
Mais je suis pas le seul à avoir expérimenté ça. C'est comme si la présence de Dieu était plus palpable. Alors d'autres gens font cette expérience-là ailleurs qu'à Medjugorje, bien sûr. Mais en tout cas, à Medjugorje, c'est particulièrement fort. C'est vraiment très, très fort. Il y a une grâce comme ça, une épaisseur, une espèce de ce que je découvrirai plus tard, notamment dans le renouveau charismatique, ce qu'on appelle parfois l'onction. Ouais. Mais pas que dans le renouveau charismatique. C'est une notion tout simplement théologie spirituelle, l'onction, la présence, la pesanteur presque de la présence de Dieu qui nous environne, voilà. Donc ça a été ça, c'était évident que Dieu existait, et puis qu'il y a tout ce qu'il faut en Dieu, en fait ma vie est tracée. Voilà,
justement, c'est là que vous avez eu cette intention de devenir prêtre, déjà à 9 ans, ça a été vraiment une évidence?
Ah oui, évidemment. Il pouvait pas y avoir autre chose que ça. En fait, Dieu vaut la peine de consacrer totalement sa vie parce que c'est, il y a tout, voilà, tout est en Dieu. Il n'y a plus qu'à maintenant faire découvrir aux autres.
Oui, c'est aussi évident que ça. Alors, devenir prêtre, ça n'a pas été évident tout de suite, hein, puisqu'après votre internat dans les Vosges, hein, qui a été tenu par les frères et les sœurs de la communauté de béatitude, où vous allez découvrir l'adoration, bah, vous allez traverser ce que vous appelez une nuit de foi, c'est-à-dire une période de doute, mais finalement qui sera bien mise à profit, hein, pour ce discernement. Est-ce que le fait de vous en remettre, de vous abandonner à Dieu le Père, c'était pas aussi une manière de combler l'absence de votre propre Père? Autrement dit, Dieu, Père de substitution.
Mais oui. C'était ça, c'est un des choses qui m'a le plus coulé dans ces doutes, et en me disant, mais finalement, est-ce que je ne suis pas inventé un personnage pour me rassurer, pour espèce de super père qui remplace le mien, qui n'a jamais été présent, voilà. Non, ben toutes ces explications sont légitimes d'un point de vue humain, et j'ai dû traverser toutes ces questions en n'ayant pas toujours des réponses très tranchées, mais au moins le fait de les traverser, ça nous met en chemin. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est apaisé, qui s'est fluidifié par grâce de Dieu, parce que je pense que c'est aussi lui qui me guidait sans que je le sente, justement, dans ce cheminement un peu ardu et nécessaire, vraiment indispensable. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se purifient, en fait, parce que oui, ça pouvait être ça, Dieu, hein, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un super père, imaginaire aussi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne les comble pas, parce que si, c'est aussi son rôle de nous combler de nous manquer. Il y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça, mais il fallait que je mette tout ça sur la table, en fait. Voilà, c'est surtout ça.
Alors vous allez devenir prêtre ordonné donc le 25 juin 2016 à la cathédrale de Pontoise. Vous allez vous prendre une direction particulière, un prêtre au service des jeunes. On en reparlera tout à l'heure, mais je vous propose tout de suite de tourner une première page musicale avec un titre que vous nous proposez, comme c'est la tradition dans cette émission. C'est Ton absence d'Yves Duteil. J'imagine que c'est en référence à votre père, justement.
On peut l'entendre comme ça, et puis simplement parce que le deuil, c'est quelque chose qui nous touche tous immanquablement. Moi le premier, j'ai perdu ma sœur, mon père une fois l'avoir connu, et bien d'autres êtres chers. Donc je trouve que c'est une chanson qui n'est pas assez connue d'Yves Duteil, donc voilà, j'avais envie de la faire découvrir.
Eh bien on va la redécouvrir avec vous, et on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de votre parcours.
Comme une bouffée de chagrin, ton visage ne dit plus rien. Je t'appelle, tu ne viens pas. Ton absence est entrée chez moi. C'est un grand vide au fond de moi, tout ce bonheur qui n'est plus là. Si tu savais quand il est tard, comme je m'ennuie de ton regard. C'est le revers de ton amour, la vie qui pèse un peu plus lourd. Comme une marée de silence qui prend ta place et qui s'avance. C'est ma main sur le téléphone, maintenant qu'il n'y a plus personne. Ta photo sur la cheminée qui dit que tout est terminé. Tu nous disais qu'on serait grand, mais je découvre maintenant que chacun porte sur son dos tout son chemin comme un fardeau. Les souvenirs de mon enfance, les épreuves et les espérances, et cette fleur qui s'épanouit sur le silence. Ton absence. Je dors blotti dans ton sourire, entre le passé, l'avenir et le présent qui me retient de te rejoindre un beau matin. Dans ce voyage sans retour, je t'ai offert tout mon amour. Même en s'usant l'âme et le corps, on peut t'aimer bien plus encore. Bien sûr, là-haut, de quelque part, tu dois m'entendre ou bien me voir. Mais se parler, c'était plus tendre, on pouvait encore se comprendre. Mon enfance a pâli. Déjà, ce sont des gestes d'autrefois sur des fils.
Vous écoutez la rediffusion de l'émission
Tout doux avec Vincent Belletti.
Je suis resté sur le chemin
ton absence par Yves Duteil. Très belle chanson proposée par frère Benjamin. Frère Benjamin, jeune prêtre salésien, directeur de Colèze, mais aussi chanteur très présent sur les réseaux sociaux. Un parcours qu'il raconte dans ce livre qui est sorti aux éditions Artege. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alors, on en revenait à ce 25 juin 2016 où vous êtes ordonné prêtre à la cathédrale de Pontoise. Vous allez prendre la direction du collège salésien de Giel dans l'Orne en Normandie. C'est un vrai défi pour vous, d'autant que vous succédiez à un directeur qui était très apprécié à l'époque, mais vous vous lancez parce que vous êtes vraiment passionné par la pédagogie de Don Bosco, pédagogie que vous allez résumer en deux objets que vous avez en permanence sur votre bureau, à savoir un tuteur en bois et un paquet de mouchoirs. Alors expliquez-nous le choix de ces deux objets, frère Benjamin, ça paraît assez curieux.
Oui, le tuteur, une espèce de baguette, quoi. Hein. Ça me permet, pour expliquer un peu là aussi, comme symbole en tant que tel, un tuteur, c'est ce qui permet à la jeune plante de s'élever. Voilà, on parle d'élever un enfant, voilà. Ouais. Et surtout, je leur explique que c'est le symbole de la loi, du règlement qui est parfois pénible. Peut-être que la plante voudrait se tortiller autrement, mais on lui donne un peu une impulsion vers qui lui donne certainement une colonne vertébrale et une stabilité pour son avenir. Donc voilà le symbole un peu de la loi, du cadre. Et puis les mouchoirs.
C'est le symbole
de l'écoute parce que quand les cœurs s'ouvrent. Les larmes peuvent aussi s'écouler, quoi. Ouais. Oui, c'est ça.
Donc les deux objets que vous avez sur votre bureau. Alors, je l'ai dit, vous êtes aussi chanteur. On en parlera tout à l'heure de cette facette artistique, mais aussi très présent sur les réseaux sociaux. Alors, comment ça a démarré cette présence? Vous le racontez dans votre livre en 2016, quelques mois après votre ordination. Vous êtes contacté par les producteurs de l'émission C'est mon choix, animé par Evelyne Thomas. Thème de l'émission, faire deviner, vous allez voir comment c'est intellectuel, faire deviner combien de conquêtes ont pu faire cette personne présente sur le plateau. Alors au début, vu votre physique, il faut bien le dire, elle est un peu à la Brad Pitt, on vous en colle le maximum, c'est-à-dire 500 conquêtes, mais au moment de vérité, c'est un peu la stupeur.
Benjamin, pourquoi n'avez-vous aucune conquête à votre actif?
Peut-être à cause de ça.
Oh non, vous êtes curé, oh non, mon Dieu.
Non.
J'ai honte. Je suis désolée, mon père. Hein. Vraiment, je vous prie de m'excuser. Mais comment ça. Enfin, les bracelets, les délires et tout. Oh là là.
Ah non, mais c'est pas truqué. Hein. C'est...
Mais non, vous êtes un prêtre.
Regardez cette photo magnifique. On dirait Brad Pitt sous le.
Mais
sous
oui,
Jésus.
C'est magnifique.
Voilà, Enora Malagré, membre de ce jury qui s'en est toujours pas remise. Dans quelle mesure cette émission a fait grimper votre notoriété, frère Benjamin? Parce que là, du jour au lendemain, ça a été la découverte dans les médias.
Oui, alors là, vous avez montré la partie un peu cocasse, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, les minutes qui ont suivi, j'ai bénéficié d'une qualité d'écoute et d'un émerveillement public pas du tout fin et des applaudissements à toutes les trois phrases. Et c'est un passage qui a permis à cette émission de faire un gros buzz, quoi. Il y a eu des millions de vues.
Parce que là, on a découvert un prêtre cool, un peu cliché, hein, avec les bracelets d'ailleurs que vous avez toujours au poignet. C'est ça qui je pense, a attiré. Alors, les réseaux sociaux, vous étiez déjà un peu actif avant l'émission, mais vous avez continué, ça a boosté votre notoriété, notamment sur Instagram, TikTok. C'est des terres de mission aussi, on peut le dire. On peut le concevoir un petit peu comme ça, c'est comme ça que vous le concevez.
Ça serait peut-être mieux dit aussi comme ça, c'est le fameux continent numérique.
Le continent numérique. Vous délivrez des messages, des petits tutos, des mots du jour, des interventions aussi, vous faites des soirées live de prière le vendredi soir. Quels sont les messages en fait qui interpellent le plus les jeunes? Quels sont les retours que vous avez?
En fait, il y a deux formats. Soit les formats conférences, ça marche très bien aussi, et soit les formats courts de 1 minute. Des tonnes de témoignages, de conversion, ça c'est évident, de curiosité qui s'approche tout doucement d'une conversion, parfois d'une religion à l'autre. J'ai pas mal de musulmans qui Et puis demande de baptême, comment ça marche. Et sinon beaucoup de recommençants aussi, hein, ou de gens qui ont eu un peu des bases, mais qui avaient complètement. Comme je fais beaucoup de mots assez concrets, bah, sur la prière par exemple. Moi je fais beaucoup de choses sur la prière. Moi je suis qu'un perroquet, comme je dis souvent, de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge partout où elle apparaît, elle demande de prier. Donc moi je fais que répéter ce que dit la Sainte Vierge et je le dis très bien d'ailleurs. Et voilà, ça permet de donner plein de. Les jeunes en fait, enfin les jeunes ou moins jeunes, hein, ils aiment bien avoir des tips quoi. En fait, comme on dit, désolé pour le jargon, mais ça veut dire des petites choses concrètes. Ça leur donne des assises, parce qu'ils se disent, ah, je veux m'y remettre, mais comment? Donc voilà, plein
donc
de.
Une petite porte d'entrée comme ça, très, voilà. Très concrète que vous leur proposez.
C'est ça.
Tout doux, une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Bellotti.
Et retour sur le plateau de Toudoux avec notre invité du jour, frère Benjamin, prêtre Don Bosco, directeur de collège salésien en Normandie, très présent sur les réseaux sociaux. Tout un parcours et des convictions qu'il raconte dans « Tu as du prix aux yeux de Dieu », c'est publié chez Artege. Alors frère Benjamin, il y a un domaine où vous illustrez aussi, chanteur on en parlera tout à l'heure, mais la musique, moi je voudrais savoir comment est-ce qu'elle s'est invitée dans votre vie. Je crois que là aussi c'est assez tôt, hein, frère Benjamin.
Oui, alors en même temps que la même année de la conversion d'ailleurs, j'avais commencé le piano en septembre, mais la conversion c'est en décembre, et on avait un piano à la maison tout simplement, et puis on s'est dit, c'est quand même dommage qu'il serve à rien ce piano là, j'aimerais bien savoir en faire quelque chose, et donc je me suis inscrit dans la petite école municipale du village là, et puis j'ai eu la chance dès le début d'avoir une super prof, et puis...
Vous dites d'ailleurs que la musique et la chanson dont on entendra un extrait tout à l'heure, ça représente pour vous plus qu'un simple passe-temps, vous dites que c'est une école de la volonté, et c'est aussi pour vous une forme de libération.
Ah oui, alors donc bon, au début voilà, on apprend l'instrument comme ça, puis comme je dis souvent, jusqu'à un certain âge j'ai pas plus souffert que ça de toute ma situation familiale, puis à l'adolescence il y a tout qui est remonté, la musique ça a été vraiment, oh là là, mais c'est sûr. C'est tout ce qu'on peut dire. Ouais. Tout ce qu'on peut dire, rien qu'avec des notes, c'est marrant, même je parle même pas encore, ça c'est plus tard que
forme d'expression
la puissance
du chant.
Ouais, c'est
libératif.
Par exemple je me souviens, il y avait telle ou telle étude de Chopin ou les nocturnes. Oh là là, les nocturnes de Chopin. Voilà. J'ai l'impression que ça racontait mon histoire. Ça coïncidait. Donc c'est fou la puissance de la musique.
De l'émotion qu'elle peut dégager.
Peau, entre autres. Ouais.
Ouais. Alors musicien, mais aussi créateur d'une chorale assez particulière. Écoutez.
Combien même ta mère ou ton père t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai jamais. 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 J'aimais, j'aime, j'aimerai. Mais jamais j'aimerai si tu ne m'avais aimé, car tu m'as aimé.
Voilà, extrait des Enfants de la Miséricorde, c'est une chanson et un clip vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube. Ça s'intitule, ou du moins la formation s'intitule Cap-Cœur. Elle est composée d'enfants de trois religions différentes, chrétiennes, juives et musulmanes. Et vous l'avez fondée en 2015 après les attentats terroristes qui ont meurtri la capitale. Comment elle est née précisément cette idée de chorale, frère Benjamin ?
Ah oui, alors arrivé à Argenteuil, déjà tout le monde s'inquiétait de ce que j'allais presque dans un bastion du djihad. c'est les représentations qu'on me renvoyait autour de moi. Et puis j'ai découvert l'inverse. En arrivant, j'ai vu au contraire une incroyable cordialité entre les gens de différentes cultures, religions. Et je me suis dit, c'est marrant, comment ça se fait que j'ai une image tout à fait différente de ça. Donc ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, dans la foulée des attentats, les enfants étaient bouleversés, ça pleurait dans les cours de récréation. Et je me suis dit, faut qu'on leur donne une opportunité d'exprimer quelque chose, d'exprimer ce qu'ils ont, un peu ce que j'ai dit juste avant sur le passé. passage sur la musique que les Nocturnes de Chopin m'aidaient moi à peut-être à me réconcilier avec moi-même, et ben que la musique puisse être un peu comme un office de thérapeutique pour ce choc là de, et en plus leur donner leur offrir l'opportunité de clamer un message, alors un message qu'on peut trouver naïf surtout depuis avec la non gestion, l'absence de gestion apparente en tout cas de l'immigration, mais n'empêche que
et c'est parti justement d'une jeune musulmane, hein, je crois, cette chorale.
Ouais,
c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Ouais. Alors dans ce climat où tout le monde regardait les musulmans d'un œil assez critique, hein, après ce qui s'était passé, c'est parti de là. Ouais.
Carrément, une jeune fille qui plus est voilée, que j'ai aidée à travers l'œuvre sociale de prévention des délinquances là, de Jean-Marie Petitclerc, le Val-de-Caux, là, dans la banlieue d'Argenteuil, et puis qui chantait super bien. Et donc, en détectant des talents chez des différents enfants de différentes cultures et différentes religions, je me dis, rassemblons-les et leur donnons-leur l'opportunité d'unir, en fait, voilà, d'unir leur voix. C'est ça le principe d'une chorale, c'est d'unir les voix, donc d'unir aussi les cœurs. Et je me disais, c'est la seule voie d'avenir, hein. Moi je suis pas habilité à gérer l'immigration ou que sais-je, mais par contre à faire en sorte que les gens qui sont là autour de moi, qu'on puisse les faire travailler ensemble et les faire chanter ensemble, les faire jouer ensemble.
On a parlé tout à l'heure de musique que vous composez, vous chantez aussi. Comment s'est venu ce déclic pour la chanson? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier?
Ah oui. Ça peut paraître puéril, mais c'est tout simplement, je regarde jamais la télé, mais une fois je découvre l'émission The Voice, et là je découvre qu'il y a des gens qui chantent en français, qui sont des Français et qui ont des voix hallucinantes. Je savais pas, et puis surtout j'ai découvert à quel point on pouvait faire mais tout ce qu'on veut avec la voix, c'est énorme. Et donc voilà, je me suis dit c'est comme si c'était une révélation. Je me suis dit en fait c'est encore plus puissant que le piano, et de fait, hein, pour moi aujourd'hui c'est une façon non seulement de continuer d'exprimer des choses mais de prêcher aussi, enfin c'est une façon de rejoindre aussi des endroits loin des milieux pas forcément proches de la foi. C'est à la fois un plaisir, une façon de prêcher, un cheval de Troie pour aller là où on s'attend pas à voir un prêtre, hein, un prêtre qui chante
Troubadour du Christ, c'est comme ça que vous appelez aussi,
c'est vrai, des gens qui voient un prêtre chanter dans un bar en col romain à 23h dans une cave à Paris, et ça, c'est vrai que ça, ils s'y attendent pas forcément, donc mais c'est ça que permet aussi la musique,
ce contraste qui permet aussi la rencontre.
La boîte à tout doux.
Alors, dans les mains, je vous le montre, j'ai un petit coffret en bois. À l'intérieur, il y a des cartes, au dos de chacune une question pour mieux vous connaître. Alors, le principe, il est simple, je vais battre, et sans brutalité comme d'habitude, ce jeu, et on va tirer 3 cartes au hasard. Je vous lirai la question correspondante. Vous avez droit à un joker si ça ne vous inspire pas. Mais de toute façon, il n'y a rien d'indiscret. Alors, allons-y, je remue les cartes. Est-ce que vous êtes prêts pour la première?
Toujours prêt.
Toujours prêt. Alors, on y va. Un prochain rêve à réaliser, qu'est-ce qui vous tiendrait à cœur? Sortir un album, par exemple.
Avec ces questions-là, on se dit, est-ce qu'on sort une réponse de ce genre-là ou un truc plus mystique? Allez, on va rester un peu terre à terre. Oui. On va rester terre à terre. Un album, une tournée.
Oui. Voilà. C'est bien parti ou pas? Enfin, vous avez déjà plusieurs titres en préparation.
J'ai plein d'idées, je manque juste de professionnels qui puissent m'accompagner dans ce projet parce que je peux pas tout gérer, la production musicale, la communication, voilà. Donc ça, c'est ça dont je manque actuellement, mais bon. Et puis on verra bien.
Voilà, en tout cas, c'est un rêve, donc un projet qui vous tient à cœur. Allez, je continue de brasser le jeu de cartes et puis vous m'interrompez quand vous voulez.
Top.
Quelle est la partie de votre corps que vous préférez?
Oh, c'est marrant ça, les mains, c'est sûr. Et les mains, c'est le diable qui dit ça dans un grand exorcisme, je crois, aux enfants d'Ilfourt, là en Alsace, où il dit que ce qu'il déteste le plus, c'est les mains du prêtre. Les mains consacrées du prêtre, c'est quand même extraordinaire. Alors en plus, moi je suis pianiste, mais bon, ça c'était, donc ça déjà, j'avais toujours pris soin de mes mains déjà avant ça, mais a fortiori depuis que je suis prêtre, c'est fou tout ce que ces mains sont amenées à faire. Elles sont amenées à tenir chaque jour l'hostie, le corps du Christ dans mes doigts, c'est quand même hallucinant. Alors les mains, c'est énorme.
Allez, on termine à une dernière carte. Je continue de brasser le jeu. Vous m'interrompez quand vous voulez.
Ah bah top.
Alors top. Mer, montagne ou campagne?
Ah mère, ça, bon, voilà, ça c'est ouais. Mère. Voilà, si je peux passer ma vie dans l'eau, mon seul regret.
Vous êtes né dans le Var, hein, on le rappelle.
Oui. Eh oui, mais mon seul regret en étant religieux, c'est qu'on nous envoie là où on nous envoie, quoi, hein, là où il y a besoin. Et du coup, je suis pas resté dans mon diocèse, quoi, où j'aurais eu plus de chance d'être près de ma mère, puisque je suis effectivement du
bon,
Var.
Vous y allez de temps en temps, quand même.
Alors Dieu merci, heureusement ma famille est restée, parce que ouais. Si en plus ma famille, comme je disais, un technicien ici à la radio, je disais heureusement que ma famille n'habite pas dans le nord, le pauvre il est du nord en plus, parce que...
Bon, il y a la mer aussi dans le nord, mais c'est peut-être pas la même température. Hein.
Ouais, non, voilà, voilà.
Voilà, bien vous entendez le générique, ça veut dire que tout doux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci frère Benjamin, je rappelle le titre de votre livre « Tu as du prix aux yeux de Dieu », c'est paru chez Artege. Et on va se quitter en musique avec l'une de vos chansons, « Toi ». Très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame.
Toi, tu prends soin chaque jour de parler à nos cœurs de ton amour. Toi, tu écoutes nos rêves, nos souffrances, nos silences. C'est toi qui donnes un sens à nos vies, chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait pour mériter que tu sacrifies tout pour nous. Et je ne fais qu'accepter que tu nous donnes tout. Toi, tu reviens chaque jour pardonner, pardonner sans retour. Toi, au milieu du chemin, tu nous tends toujours la main. C'est toi qui donnes un sens à nos vies, chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait pour mériter que tu sacrifies tout pour nous. Et je ne fais qu'accepter que tu nous donnes tout. Merci, merci. Tu t'es donné, je suis sauvé. Merci, oh merci. C'est toi qui donnes un sens à nos vies, chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait pour mériter que tu sacrifies tout pour nous. Et je ne fais qu'accepter que tu nous donnes tout. Tu nous donnes tout.